Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour notre émission Sobre à l'Augue. Alors aujourd'hui, eh bien nous sommes sur la commune de Bigoulia. Nous allons passer l'heure à venir avec un historien, Jean-Baptiste Rich, qui a la gentillesse de nous recevoir donc chez lui. Monsieur Rich, bonjour.
Bonjour.
Alors, en quelques mots pour les auditeurs, parce qu'on est à la radio, ici, donc, c'est la commune de Bigouille, on est plutôt vers la mer. Alors, vous avez la chance d'être dans une propriété, il n'y a rien autour de vous, c'est un domaine familial, j'ai l'impression.
Tout à fait, c'était une propriété de mon grand-père, c'est le lieu dit Agouladia, c'est une propriété qui fait une vingtaine d'hectares et qui a comme limite le Bivinco et l'étang de Bigouille.
C'est ici que vous avez passé votre enfance, en ces lieux, où vous étiez plutôt Abbatia. Expliquez-nous un petit peu.
Voilà, mon enfance, alors, je suis né le 10 août 1947 à Abbatia, et mon enfance, j'ai essentiellement passé au Nouveau-Port, et ma famille, du côté maternel, était du marché, et mon grand-père maternel était un viticulteur vigneron, avait des propriétés à Fouriane et à Villiers-Pietrabugno et sur Bastia Montesor et ici à Bigouille. Et j'ai passé une grande partie de mon enfance, surtout à Fouriane, dans les propriétés à Fouriane et ici à Bigouille.
Alors, cette passion, enfin, du moins, vous avez décidé d'embrasser la carrière d'historien. Déjà jeune, ça vous intéressait l'histoire? Vous étiez attiré par cette discipline-là ou ça a été un petit peu le fruit de diverses circonstances?
Non, c'est-à-dire que je suis issu d'une famille du côté paternel de numismates. C'est-à-dire que je suis venu à l'histoire naturellement
par
les monnaies. C'est-à-dire que tout petit, si vous voulez, mon père avait constitué une collection, mais qui venait déjà de mon grand-père qui était officier de marine et de mon arrière-grand-père qui était aussi officier de marine, qui avait fait la guerre de 70, le reste de la conquête d'Algérie, et qui avait, tous deux avaient ramené des monnaies du monde entier, et que mon père avait un peu constitué en collection véritable avec des pôles d'intérêt. Et tout naturellement, je suis né avec cette passion de l'histoire, et ce qui m'a permis d'avoir une connaissance quasiment parfaite, pour ne pas dire parfaite, parce que le parfait n'existe pas, mais de la chronologie, parce que mon père, de tout petit, dès l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis au fur et à mesure, me faisait classer dans des cartons, des monnaies, pour voir si je me trompais, notamment au niveau des pays. Mais ce qui est le plus important, parce qu'il y a une grande partie de la collection, c'est du monnayage romain, il me faisait classer les empereurs romains, et ce qui fait que il m'est resté, même actuellement, quand on me parle d'un empereur romain, que ce soit d'Auguste, que ce soit Néron, Nerva, ou Caracalla, tous ces noms, je vois des têtes, je vois des pièces, je vois des deniers, je vois des têtes, et tout petit, je pouvais identifier les empereurs, alors que, avant de savoir lire, donc sans pouvoir lire le nom de l'empereur, où souvent ce ne sont que des abréviations, dans la titulature de la verre de ces monnaies, j'étais capable de dire ça c'est Néron, ça c'est Galba, c'est Vitellius, etc. Ce qui semble un peu surprenant, mais ça m'a aidé considérablement lorsque j'ai entrepris mes études d'histoire, parce que j'ai fait au départ une licence d'histoire ancienne et médiévale, et même les professeurs d'histoire romaine me disaient c'est curieux. Vous ne vous trompez jamais au niveau de la chronologie. Et alors j'avais dit oui, mais j'ai pas tellement de mérite là-dedans. C'est simplement ça vient naturellement parce que ce sont tous des souvenirs d'enfance qui sont gravés dans ma mémoire et que j'utilise encore même aujourd'hui. Et souvent je tique un peu lorsque je vois des approximations ou des erreurs manifestes. Je voudrais pas le dire. Même ici, mais des fois même au musée de Bastia, où il y a des petites erreurs, si vous voulez, pour moi, qui ont fait tilt, tout simplement parce que après, quand on étudie l'histoire un peu en détail et qu'on y passe une grande partie de sa vie, plus de 40 ans, ben on est attaché aux détails et à la précision presque d'horlogerie. Voilà.
J'aimerais qu'on arrive déjà à cette thèse. Alors, est-ce que vous pourriez nous la présenter avec son intitulé et pourquoi avoir choisi justement cet intitulé-là, du moins cette période-là?
Alors, l'intitulé, le sujet de ma thèse, c'est l'aventure militaire des Corses au temps moderne, soldats et mercenaires insulaires enrôlés au temps de la domination génoise. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Tout simplement, c'est parce que dans le cadre de mes études, de mon cursus, j'avais fait d'abord une maîtrise sur la période de Pascal Paoli, et je m'étais attaché à la chose militaire, tout simplement parce que je suis grand invalide militaire. J'ai été blessé dans l'armée, où j'ai servi dans les troupes aéroportées, et je m'étais attaché à faire une maîtrise sur la période de Paoli, à Furiani, où j'ai passé une partie de mon enfance sur les propriétés de mon grand-père. Et je m'étais aperçu qu'il y avait pas mal de choses qui m'interpellaient, notamment sur la période génoise, alors que au départ, comme tous les Corses, j'avais idéalisé la période paoliste. Et je me dis, tiens, peut-être c'est quelque chose à approfondir, non pas uniquement l'armée de Pascal Paoli, parce que ça a été une période très courte dans l'histoire de la Corse. Mais je m'étais intéressé à l'armée génoise, et puis à ce que l'on appelait la domination génoise, parce que j'avais toujours entendu ce terme de domination, ça m'était resté, domination romaine, domination génoise. Et après, bon, je vous expliquerai que, après tant d'années d'études, c'est mon point de vue personnel, on ne devrait pas parler de domination génoise, mais de souveraineté génoise.
La différence ?
La différence, c'est que la Gênes a souvent fait confiance aux Corses, et non pas, c'était pas un carcan, n'a jamais considéré l'île, contrairement à ce qui a été écrit, comme une colonie. Par exemple, il n'y a jamais eu de monnaie corse, de monnaie génoise frappée, pour une colonie qui se serait appelée la Corse. Or, Gênes, lorsqu'elle avait toutes ses colonies du Moyen-Âge, puisque à la fin du Moyen-Âge, elle a perdu toutes ses colonies d'Europe orientale, il y avait des monnaies spécifiques pour toutes les colonies. Toutes les colonies. Tout comme Venise. Toutes les colonies vénitiennes avaient des monnaies spécifiques, comme en Crète, à Rhodes, etc., à Chypre, bon. On en passe. La France, pareil, frappait des monnaies spécifiques, comme Louis XIV a frappé des monnaies pour le Canada. C'est un exemple, mais bon, il y a 1000 exemples comme ça. Gênes, jamais pour la Corse. Et Gênes a souvent donné, peut-être on en parlera, les clés carrément de la cité aux Corses, qui servaient dans son armée à Gênes. Et ça, on va le retrouver souvent dans l'histoire, notamment en particulier au XVIIe siècle, en 1625, en 1672, lorsqu'il y a eu les guerres de Gênes contre le Piémont, les invasions, eh bien Gênes a confié les clés carrément aux troupes corses.
Expliquez-nous comment vous avez travaillé, parce que vous n'êtes pas allé seulement à Gênes, et vous avez découvert énormément de choses.
Alors voilà, pour en revenir, après ma maîtrise, j'ai fait un DEA, un diplôme d'études approfondies, je crois que ça n'existe plus maintenant, enfin, sauf vérification, qui menait vers une thèse. Il y avait deux possibilités après la maîtrise, soit faire un DESS, soit faire un DEA. Bon, moi j'avais choisi la voie la plus longue, celle d'une thèse, parce que justement je voulais approfondir les problèmes de l'armée génoise. Et mon DEA a porté, le DEA en gros ça représente deux ou trois maîtrises, hein, pas plus, hein, a porté sur les effectifs de l'armée génoise en Corse, c'est-à-dire pas uniquement de l'armée, mais même, si vous voulez, de la police, tout ce qu'il y avait en Corse, parce que, justement, on parlait de domination. Alors, je voulais voir si vraiment il y avait une domination, c'est-à-dire une forte pression militaire, policière en Corse, durant la période moderne, la période génoise, c'est-à-dire de fin du XVIe, XVIe siècle, XVIIe, début du XVIIIe, puisqu'il fallait bien choisir une période, c'est-à-dire jusqu'à ce que la Corse devienne française. Et là, quelle n'a pas été ma surprise. Alors là, j'avais déjà travaillé dans les archives essentiellement à Ajaccio, mais aussi à Gênes. Dans le cadre de mon DEA, j'étais parti souvent à Gênes, aux archives de Gênes. Et là, j'ai été très surpris de voir que il n'y avait pas beaucoup de pression ni militaire ni policière, parce qu'en gros, à chaque siècle, et là, je les ai comptés, hein, parce que j'étais tellement surpris que j'ai pris le temps de compter les personnes qui étaient enrôlées une par une, parce qu'on trouve justement des rôles de paye et d'effectifs, où là, Gênes ne badinait pas, parce que c'était des comptables, hein, c'était des commerçants, et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et là, il n'y a pas d'erreur possible. Où il y a les noms des personnes, alors j'ai compté tous les hommes de troupes, les sous-officiers, les officiers, avec leur paye, etc., pour le XVIe siècle, le XVIIe siècle, et le début du XVIIIe siècle. Et là, quelle n'a pas été ma surprise, c'est de voir que, au grand maximum, ça n'a pas dépassé les 1000 hommes pour toute la Corse. Or,
en permanence.
En permanence. Il n'y a jamais eu plus de 1000 hommes. Sauf quand il y avait des périodes de crise ou autre, on envoyait peut-être une troupe, une compagnie ou deux compagnies, mais c'est tout. Mais en permanence, c'était ça. C'est-à-dire, c'est nettement inférieur à ce qu'il y a actuellement en Corse. C'est-à-dire que la population de la Corse de l'époque, c'était environ 120 000, 130 000 habitants, pas plus. Mais la superficie reste la même, hein. Et donc pas plus de 1000 hommes. Et ça m'a intrigué. Alors, parce que, y compris tous ceux qui étaient les gardiens des tours, hein, les tours qu'on en a appelées génoises. Là aussi, petit aparté, il faut rétablir les choses dans un contexte beaucoup plus général. C'est un système défensif imposé par l'Espagne, hein. C'est quand on dit Gênes, oui, d'accord, la Corse, mais Gênes était dans la mouvance espagnole. Vous retrouvez dans tout le bassin méditerranéen un système défensif basé sur des tours dites génoises, souvent génoises. Bon, souvent il y en a qui disent pisanes, c'est à tort, hein, pour la Corse. Bon, c'est bien génoise, mais vous avez tout exactement la même chose sur les côtes espagnoles du bassin méditerranéen, mais vous aviez la même chose en Sardaigne, tout autour de la Sardaigne, la même chose en Sicile, la même chose sur la côte italienne, c'est-à-dire un système défensif pour protéger une mer fermée qui était sous la domination, là on peut dire, de l'Espagne. Hein. Donc les tours génoises, replaçons dans le contexte, c'était pour, en gros, un système défensif imposé par l'Espagne. Bien. Et là, donc, sur ces 1000 hommes, je voulais voir s'il y avait, y compris, donc, les défenseurs. Dans les 1000 hommes, il y a y compris les gardiens de tours, hein. C'est la police, l'armée, etc. Donc, pas plus de 1000 hommes. Et ça m'a intrigué quand même. Je me dis, bon, c'est quand même bizarre. Et je voulais voir s'il y avait des Corses qui servaient dans l'armée génoise. Parce que je dis, c'est quand même curieux qu'il y ait eu des unités entières et des compagnies, et qu'il n'y ait pas eu de Corse. Or, j'ai vu que dans les rôles que j'épluchais, que je travaillais, et il s'agissait de Corses qui venaient de Bastia, ou de la région, ou d'Ajaccio. Et alors, je suis allé un peu plus loin, et j'ai vu. Je me suis dit, tiens, dans le cadre d'une recherche, il faudrait voir si éventuellement il n'y a pas plus de Corses qui ont servi dans l'armée génoise, et d'où mon sujet de thèse. Et là, quelle n'a pas été ma surprise, ça a été de voir que c'est par milliers que les Corses ont servi à Gênes, mais également dans d'autres armées. J'avais, bon, une petite idée dans quel sens il fallait chercher aux archives de Gênes, mais au fil de la recherche, je crois que c'était assez limité, parce que j'ai été dissuadé par beaucoup d'historiens, notamment ici en Corse, on m'a dit, mais non, il n'y a rien. Et même des spécialistes français, où j'avais assisté à des soutenances de thèse, qui disaient que non, les Corses n'avaient pas servi ailleurs, c'était pas des militaires, c'était pas comme en Sicile, par exemple, ou en Sardaigne. Et ça, ça m'intriguait, justement, après avoir fait mon DEA. J'ai dit, bon, quand même, je vais déposer ce sujet. Alors, contrairement même à ce que me disait mon directeur de thèse, qui était un ami, qui m'a dit, bon, ben, si tu veux le déposer, tu le déposes. De toute façon, ben, si ça ne marche pas, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Mais bon, moi, je te dissuade fortement, mais enfin...
Et là, alors, pour aller un petit peu vite, vous trouvez qu'il y a eu des milliers de Corses qui, en permanence, durant des siècles, ont servi dans, je veux dire, différentes armées.
Voilà. Alors, là-bas, à Gênes, je trouve, notamment en fin du Moyen-Âge, au XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe, jusqu'à ce que la Corse devienne française, donc des milliers de Corses qui ont servi à Gênes. Mais, évidemment, au cours de la recherche, je trouve, par exemple, que tel officier qui a servi venait de Venise. Il servait auparavant, c'était quelqu'un, on le recommandait, on disait, c'est un militaire aguerri, d'ailleurs, il a fait la guerre dans les armées vénitiennes. Alors, ça m'a intrigué. J'ai dit, tiens, il faudrait peut-être que j'aille à Venise. Alors, je suis allé à Venise, et je suis allé durant des années, hein, peut-être, je sais pas, moi, 30, 40, 40 fois, je sais plus combien de fois, je suis allé aux archives de Venise, où je passais 10, 15 jours là-bas, dans le cadre de ma recherche. Et là, quelle n'a pas été ma surprise, c'est que j'ai trouvé aussi des Corses durant plusieurs siècles qui servaient la République vénitienne. Alors là, ça m'a interpellé d'autant plus. Où je trouve là aussi des Corses de Venise, on dit, tel venait de Rome. Je suis allé à Rome, et je vais à Rome, et à Rome, alors là, étant donné que j'étais boursier de l'école française de Rome, j'ai eu accès aux archives vaticanes, non seulement à l'archive di Stato di Rome, où j'ai trouvé beaucoup de choses, notamment des rôles de paye, des rôles d'effectifs, puisque dans l'armée, de temps en temps, il fallait savoir... qui ont payé, s'ils étaient bien tous en vie, bon, etc. Et aux archives vaticanes, alors là, j'ai trouvé, c'est une mine, et là, ça m'a interpellé au plus haut degré, où durant plusieurs siècles, là, ça remontait au Moyen-Âge, mais je pouvais... Mon sujet ne partait que du XVIe siècle. Au départ, j'ai un peu regardé à gauche, à droite, j'ai été aidé par des ecclésiastiques, des historiens de haut niveau qui m'ont orienté, parce que dans les archives vaticanes, c'est un classement très très particulier qui n'a rien à voir avec tous les autres classements. Et si on n'est pas initié, on ne trouve rien, c'est très très difficile.
Alors les Corses, ils sont combien à peu près en permanence? Principalement, ils sont où? Ils travaillent, enfin du moins, ils mènent bataille pour qui? Et ici en Corse, ils venaient d'où? De quelle région plus ou moins? Est-ce que ça aussi, vous avez pu le décrypter?
Voilà, mais je n'avais pas encore fini le tour, c'est-à-dire que on trouve aussi énormément de Corses en Espagne. Et voilà, en Grèce, c'était ceux de l'armée vénitienne, mais on en trouve énormément en Espagne. Je suis allé en Espagne, pourquoi? C'est tout simplement parce qu'en regardant les cartes de géographie de l'époque, du XVIe siècle, notamment, je m'étais aperçu que le pays le plus proche de la Corse, ce n'était pas l'Italie, mais c'était l'Espagne. Et simplement, c'est les comptoirs espagnols qui se trouvaient, ce qu'on appelle les présides, donc comme Talamone, Porto Ferraio, etc., qui est Porto Ercole, qui étaient des comptoirs, des présides espagnols. Et là, je me suis dit, alors s'il y a des présides espagnols, c'est-à-dire des fortins, des militaires, pourquoi n'y aurait-il pas de Corse? Et évidemment, qu'il ne fut pas ma surprise... en allant en Espagne. Mais là aussi, je m'étais souvenu des cours de Nice, c'est-à-dire des premières années de ma formation, où j'avais retenu qu'un professeur nous avait dit, quand on étudiait le XVIe siècle, notamment parce qu'on étudiait le siècle d'or espagnol, notamment Philippe II d'Espagne, le fils de Charles Quint. Philippe II avait eu l'intelligence de concentrer toutes les archives espagnoles, contrairement aux autres pays, en un seul endroit, qui s'appelait Simancas, près de Valladolid. Ça, ça m'était resté, oui, comme quoi il faut avoir une bonne mémoire en histoire. Alors évidemment, je suis parti là-bas, et là aussi j'ai trouvé énormément d'archives concernant les Corses, et notamment les militaires, mais aussi aux archives de Madrid et Barcelone. Et donc, durant plusieurs années, je suis allé, c'est là que j'ai vu qu'il y avait un régiment corse en permanence qui servait à Cadix, dans le sud de l'Espagne, et aussi qui se trouvait dans des comptoirs répartis à Ceuta, un comptoir espagnol au Maroc espagnol. Dans le cadre de ma thèse, j'en parle, et j'ai fait le recensement de tous ceux qui étaient durant cette période, notamment du début du XVIIIe siècle. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en avait aussi en France, hein, là, parce que là on occulte presque la France, mais il y en avait aussi qui servaient en France, surtout depuis Saint-Pierre aux Corses, hein, quand il est parti après l'échec de sa tentative de condottiere qui a échoué, il faut bien le dire. Il est parti avec des volontaires en France, et il y avait le régiment Ornane, ce qu'on appelait le régiment Ornane, mais lui n'était pas, c'est sa femme qui s'appelait Ornane. Mais enfin bon, dans l'histoire, on retient son nom, sous le nom des Ornane, où là aussi, en grand nombre, mais il ne faut pas croire que, essentiellement, les Corses ont servi la France, mais ils ont surtout servi ailleurs. Alors, en permanence, on peut estimer, je les ai comptés, là aussi, sur la période, je les ai comptés, et je les ai comptés un par un, donc durant presque 20 ans, hein, plus de 15 ans, j'ai passé mon temps, c'était assez rébarbatif, environ, en permanence, 7000 à 9000 hommes servaient en permanence à l'étranger, c'est-à-dire en Italie, dans toute l'Italie, y compris à Rome, à Naples, à Venise, Gênes, bien évidemment, hein, en Espagne, Venise, mais Venise avec toutes les possessions, c'est-à-dire en Grèce, beaucoup étaient en Grèce, beaucoup étaient dans l'île de Crète, où je suis allé en Crète plusieurs fois pour voir les endroits où ils avaient servi, où j'ai retrouvé, j'ai pris les photos même des fortins, où des Corses sont battus et sont morts. Par centaines, pour ne pas dire des compagnies entières qui ont été décimées, qui ont disparu contre les Turcs. Te sulla dado tu chi desti rigore udo la ti muviado sospira dolori
ivume l'onda ghie dai uviume dorme so dau ponte accare sa monte
C'était des soldats, des mercenaires, comment est-ce qu'on pourrait les qualifier aujourd'hui, hein? Faudrait se replacer dans le contexte, mais c'était quoi, ils étaient à la solde d'État de...
Alors voilà, là c'est la grande difficulté, c'est pour ça que c'est de dire, est-ce qu'il s'agissait de soldats? Il ne faut pas oublier que la Corse était génoise, donc on pourrait dire ce sont des Génois. Mais même à Gênes, les Corses n'ont jamais été qualifiés de Génois, ils étaient qualifiés de Corses. Dans tous les documents, vous avez toujours Corse, nationalité Corse. C'est pour ça que je vous dis, la domination génoise, si c'était une domination, aucun problème, ils auraient mis Génois. Mais quand il s'agissait de Ligure, où ils auraient pu mettre Ligure, mais quand il s'agissait de soldats Ligures, les Génois mettaient Paeselli. Paeselli, c'est les gens, les Ligures qui servaient dans l'armée génoise. Sinon, c'était soit des Allemands, beaucoup de Suisses, mais le gros noyau, c'était les Corses. C'est ça qui est... Les Ligures, très peu. Les Génois intramuros, c'est quasiment zéro, sauf que peut-être les commandants d'unités, de grandes unités, et encore, ça va pas chercher loin. Mais c'était surtout les Corses, vous voyez, que l'on retrouve en unité constituée. C'est ça qui est original. D'ailleurs, quand je vous dis, il y a eu les guerres contre le Piémont en 1625, 1672, et même quand il y a eu le bombardement de Gênes par la France en 1684, avec une tentative de débarquement, Gênes envoie, eux, ils disaient, il faut envoyer les Corses. Vous voyez ? C'est-à-dire, ils ne savaient plus comment faire, et ce sont les Corses qui ont colmaté les brèches et qui ont rétabli, par exemple, le front en 1625, et puis après en 1672 contre le Piémont, et qui ont empêché, la tentative de débarquement française, mais enfin, c'était plutôt une démonstration de force. Enfin, la ville a été détruite aux trois quarts, hein, de Gênes en 1684, par la flotte française, qui était commandée par l'amiral Seignelay. C'était assez cynique de la part de Louis XIV.
Alors, soldats, oui, pour ce qui est de Gênes, on va dire, mais encore. Mais pour les autres pays, États ou régions ?
Alors voilà, bon, peut-être mercenaire, on peut le qualifier de mercenaire, mais ce qu'il y a, c'est que les Corses, contrairement aux autres mercenaires, à partir du moment où ils servaient un prince, ils le servaient jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et, or, les mercenaires ne vont pas jusqu'à la mort, puisque l'important, c'est d'avoir de l'argent. Et lorsqu'il s'agissait d'unités constituées, les mercenaires, quand ça tournait, voilà, on peut dire au vinaigre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils retiraient leurs troupes, parce que c'était les chefs qui étaient les patrons de leur unité. À l'époque, il faut se replacer dans le contexte, au XVIe siècle, au XVIIe, début du XVIIIe, en termes militaires, en jargon militaire, tout tournait autour de la compagnie. C'est-à-dire, la compagnie était une unité organique et de combat, pas uniquement une unité de combat. Bon, pour faire simple, pour les non-militaires, par exemple, le régiment est une unité organique et de combat. En revanche, par exemple, un bataillon n'est pas une unité organique, c'est uniquement une unité de combat, ou la section, par exemple, qui est commandée par un lieutenant ou un sous-lieutenant, ou parfois par un sous-officier, c'est une unité de combat et non pas une unité organique. C'est important parce que, si vous voulez, toutes les dotations, tout était remis au niveau de la compagnie, du commandant de compagnie, qui était un capitaine. Mais enfin, les capitaines de l'époque, c'était des patrons, je veux dire. Et il ne faut pas avoir une vision tronquée du 21e ou du 20e siècle, où, si vous voulez, dans l'organisation militaire, on pense, si vous voulez, toujours la compagnie aux effectifs comme ceux actuels qui ont évolué entre la guerre de 14 et maintenant. Mais enfin, bon, si vous voulez, pour faire simple, vous avez des régiments qui étaient organisés de façon, ou même les compagnies, de façon ternaire ou quaternaire. C'est-à-dire, par exemple, un régiment pouvait comprendre trois compagnies, quatre compagnies, quaternaires, ou ouais, ternaires. Bon. Mais, donc avec des effectifs limités, par exemple, en 1914, les grosses compagnies faisaient 200, 250 hommes. C'est plus le cas de nos jours, C'est plus ça. Mais à l'époque, au XVIe siècle, une compagnie pouvait comprendre même jusqu'à 500 hommes. C'est-à-dire, quand on entend compagnie au XVIe siècle, quand on parle de compagnie, il faut entendre, par exemple, une compagnie comme une compagnie, dans le privé, de commerce, une compagnie de navigation. Vous voyez, la compagnie, c'était pas uniquement, c'était une affaire, pour employer un terme actuel, de business. C'était une affaire. On montait une affaire que l'on appelait la compagnie, voilà, avec le commandant de compagnie. Bon, cela dit, c'était l'argent, par exemple, pour payer toute la troupe, on le remettait au capitaine, vous voyez, au commandant de compagnie. C'était lui qui faisait après la répartition. Et non pas, il n'y avait pas ni de bulletin de paye, ni etc. Il retenait ce qu'il voulait. Et les Corses, évidemment, on s'aperçoit là au fil du temps, puisque là on a tous les documents, on sait ce que donnait chaque pays pour payer les compagnies, mais on s'apercevait que les Corses, la troupe, ils percevaient pas grand-chose. L'officier, au passage, le commandant de compagnie, gardait pratiquement tout. Alors, il y avait une partie, c'était pour l'équipement, puis une partie, le vêtement, puis après, pour la nourriture, il gardait, et puis il donnait un pourboire. C'est pour ça que c'est une fausse idée de croire qu'il s'agissait en fait de mercenaires qui partaient, qui allaient s'enrichir et qui retournaient en Corse avec un pécule. Ils retournaient avec rien du tout, ceux qui retournaient, parce que beaucoup soit étaient morts au combat, soit morts de maladie, soit restaient sur place parmi les 7000, 9000 hommes en permanence. C'est-à-dire en permanence, donc en permanence, il y avait des jeunes qui partaient.
Sobralogo, Asie et Guida.
Qui étaient-ils, ces Corses-là?
Alors là, a priori, on pourrait croire, comme je vous ai dit, la population, encore 120 000, 130 000 habitants. Pour faire simple, grosso modo, on peut dire qu'en gros, comme population, il y a toujours eu 50% de femmes, 50% d'hommes. Bon, ça se discute à la marge, mais bon. Donc il ne s'agit que d'hommes, bien évidemment, et d'hommes jeunes, entre à peu près 18 et, bon, on peut dire, 50 ans, quoi, en gros, ou 60 ans, bien que à la marge on trouve des militaires plus âgés qui servaient encore, ou plus jeunes, souvent c'était les tambours, autres, qui étaient souvent des enfants, aussi des Corses, hein, qui sont partis, qui étaient en bas âge, qui n'avaient pas de parents ou autres, qui étaient pris, bon, pour manger, hein. Et tous ceux qui partaient, c'était pour, simplement un besoin alimentaire. Et là, d'aucuns pensaient au départ que ceux qui partaient, c'était ceux des villes. Les villes, essentiellement les villes de l'époque, étaient des villes génoises, hein, comme Bastia, Porto Vecchio, Ajaccio, etc. Les seules véritables villes corses fondées par des Corses, c'était Sartène et Corté. Enfin, c'est Sartène et Corté. Toutes les autres ne sont pas des villes corses, hein, elles-mêmes. Enfin, comme on l'entend. Et puis, là, quelle ne fut pas ma surprise, en gros, uniquement 10-12% venaient des villes. Mais des villes, évidemment, les villes essentiellement étaient peuplées de Génois, mais là, parmi les 10-12% qui venaient des villes corses, il s'agit de Corses et non pas ni de Ligure, ni de Toscans qui seraient venus ou restés après la souveraineté pisane, hein, je veux dire, quand la Corse est devenue génoise. Non, pas du tout. Essentiellement, ils venaient de l'intérieur. Et la partie de l'île qui a fourni le plus de troupes, eh bien, c'est le nord de la Corse. Le nord-est, ben, la Castagniccia, c'était l'endroit le plus peuplé. C'est vrai, ça semble évident, mais encore fallait-il le démontrer et le compter. Il fallait compter. Et je les ai comptés, et effectivement, et il n'y a pas de zone d'ombre, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de villages, même actuellement. On se demande, même quand on va dans ces villages, où c'est qu'ils ont pu habiter avec leur famille. Mais bon, c'est vrai que la plupart étaient des bergers, des nomades, et ils habitaient, non pas des maisons en dur, mais des maisons en bois ou des paillages, etc. Hein.
On peut dire que bon, cette tradition militaire, elle était bien sûr, j'imagine, bien présente avant la période que vous avez donc choisie pour votre thèse. Aujourd'hui, alors on va vite, je sais malheureusement, aujourd'hui cette tradition n'existe plus. Il y a moins de gens qui s'engagent. Bon, le monde a changé, bien évidemment. Mais est-ce que donc justement, ça n'a pas coupé un peu l'écorce de ce qu'ils étaient ou ce qu'ils étaient un petit peu obligés d'être?
Alors tout à fait. À partir du moment où la Corse est devenue française, là aussi, contrairement à ce que l'on pense, les Corses ont continué de servir durant presque un siècle, encore à l'extérieur. Beaucoup ont servi encore à Gênes, à Rome, mais c'est devenu de façon marginale, puisqu'ils ont servi dans l'armée française. Beaucoup ont servi dans le Royal Corse, mais c'était pas énorme, vous voyez. Alors que beaucoup pensent que les Corses, le Royal Corse, ça a été quelque chose, un peu comme le fleuron, presque de l'armée française, pas du tout, hein. C'était une unité. On l'appelle Royal, mais tout simplement parce que c'est comme d'autres unités, hein. Il n'avait rien de véritablement royal, hein. C'était l'organisation elle-même qui datait de Louis XIV, hein. L'organisation militaire française, essentiellement, c'est celle de Louis XIV et non pas celle de Napoléon. C'est venu après. Lui, il n'a repris que le type d'organisation Louis XIVe. Et comment dirais-je, au niveau des effectifs mêmes, les Corses se regroupaient par région. Oui, ça aussi, c'est atypique. Parce que les recrutements étaient micro-régionaux. Voilà. Ce qui fait que ça donnait une unité de combat. C'est-à-dire, ils se connaissaient tous. Et le gros avantage, d'abord, ils avaient la même religion. Ils parlaient tous la même langue. Et les commandements se faisaient en italien, y compris en Espagne. Vous voyez, c'est-à-dire, quand ils servaient à l'étranger, les commandements se faisaient en italien. Là aussi, c'est original. Y compris, il ne faut pas oublier, dans le Royal Corps. Hein. Ce n'était pas en français. Voilà, toute l'organisation se faisait comme ça.
Alors, ce travail, cette méthodologie, vous nous le disiez, donc vous avez compté un par un, donc tous ces soldats, ce chiffre qui est plus ou moins stable, entre 7 et 9 000 Corses, alors on peut imaginer que c'était bien sûr, vous l'avez dit, pour des raisons simplement pour se nourrir, mais est-ce que, par exemple, le soldat corse avait des vertus comme le soldat, vous avez dit, suisse, allemand. Qu'est-ce qui fait le lien entre tous ces soldats-là? C'est pas la montagne, vous me l'avez expliqué.
Voilà. Les guerriers, en général, et pour ne pas dire toujours, dans le monde entier, essentiellement, c'est des gens venant de la montagne. Toujours. Quand vous prenez les lansquenets, les Allemands, que ce soit les Suisses, même en Afrique, vous voyez, les Tchadiens, c'est pas les gens de la côte. Prenez même en Indochine, quand il y avait la guerre d'Indochine, les guerriers véritables venaient de la montagne. Hein. En Chine, pareil. Partout, sur tous les continents, c'est ça. Et la Corse n'échappe pas à cette logique. Là aussi, il fallait réfléchir un peu pourquoi les Corses et pas d'autres. Ben, les Corses, tout simplement, ce sont des montagnards. Les 9 dixièmes de l'île, c'est de la montagne, ici en Corse. Et c'est vrai que naturellement, on peut dire, y avait forcément des guerriers, puisque c'est le cas ailleurs. Il fallait le démontrer, ça aussi. C'est pas le cas de la Sardaigne, c'est pas le cas de la Sicile, c'est pas le cas de l'île de Crète, c'est pas de Chypre, même s'il y a quelques montagnes. Il y a eu aussi des guerriers. Mais essentiellement, les autres, dans toutes les îles méditerranéennes, on voit, ce sont des marins. Et les Corses, non, contrairement, là aussi, à des idées reçues, bien que dans ma famille... du côté paternel, soit des marins, mais ce sont plutôt des navigateurs, c'est pas des marins, même on va me citer toujours des contre-exemples, hein. On va dire oui, mais dans le Cap, etc., il y a des marins, du côté de mon père, on était originaire du Cap, oui, des marins, mais ce sont pas des marins au sens, par exemple, comme les Espagnols, ou les Baléares, ou comme les Sardes, comme les Siciliens, comme les Grecs, ce sont des marins. Les Anglais, ce sont des marins. Les Bretons, en France, ça, ce sont des marins. C'est-à-dire, la mer colle à la peau. Le Corse, il ne regardait pas vers les Arabes, ce sont des marins. Les Chinois, n'en parlons pas, bon, etc. On peut faire le tour du monde, c'est le cas. Mais les Corses, non. Les Corses, ils regardaient la montagne. Pourquoi? Parce que c'est une montagne dans l'eau, tout simplement. Et c'était des éleveurs. Et ça explique beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, même un terrain d'incompréhension, même avec la France, hein, depuis que la Corse est française, un grand terrain d'incompréhension, c'est que souvent, à Paris, on a oublié que les Corses étaient de culture et de civilisation pastorale. Et c'est un réflexe, je parle les Corses de souche, hein, évidemment, hein, il raisonne comme un berger, comme un éleveur, et non pas comme un agriculteur, non pas comme un marin. Ils n'ont pas le regard vers l'extérieur, et ils sont renfermés sur eux-mêmes, et ça explique beaucoup, beaucoup de choses. Alors là aussi, il faut pas trop le dire, beaucoup de xénophobie, un peu de racisme, pour ne pas dire beaucoup, etc. C'est-à-dire, ça explique beaucoup de choses.
Alors, je rappelle que Jean-Baptiste Ricci est notre invité dans Sobralogo. Alors, on a survolé, c'est vraiment dommage, parce que moi j'ai eu la chance de parler avec vous pendant quelques heures, et alors, peut-être que ça nous amènera à faire d'autres émissions. Cette thèse, alors, elle fait 2000 pages, il y a 7 volumes, elle est consultable quelque part pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés pour bien la parcourir?
Oui, enfin, pas loin de 3000 pages. Oui, non, mais c'est... on n'est plus à 1 000 près, hein, c'est pas ça. Mon propos n'est pas à ce niveau. Bien sûr, elle est consultable, puisque ma thèse était publiable partout, et j'ai eu l'autorisation, et elle a été publiée dans toutes les bibliothèques universitaires de France, sous forme de microfilm ou microfiche, je ais plus comment ils procèdent ou comment ils ont procédé, avec toutes les autorisations voulues, y compris à l'étranger, de partout où j'ai travaillé. Et là, elle est consultable même en support papier, bien sûr à Bastia, hein, aux archives départementales, à la bibliothèque municipale de Bastia, aux archives à Ajaccio, à Corté, bien évidemment, hein, il doit y avoir 2 ou 3 exemplaires à l'université, à la bibliothèque universitaire, mais également en Espagne, puisque j'ai travaillé là-bas, il se trouve à Simancas aussi un exemplaire, il y en a à Naples, puisque j'ai travaillé beaucoup à Naples, aux archives de Naples, aux archives de Rome, à l'archive di Stato, aux archives vaticanes, bien sûr, à Venise, bien évidemment, à Turin, à Milan, enfin voilà. De partout où j'ai travaillé, elle est consultable, mais ici en Corse.
Alors, très souvent, les historiens, et tant mieux, publient aussi pour le grand public. C'est sûr, proposer un livre de 3000 pages, c'est impossible, hein, pour différentes raisons. Vous-même, bon, vous semblez être plus discret que d'autres. Alors, ça, c'est une volonté, c'est par rapport à votre caractère, c'est un projet que vous avez peut-être un jour de proposer au public, à un large public qui s'intéresse à l'histoire, le résultat de vos travaux.
Oui, alors, bien évidemment, bon, j'aurais aimé, j'avais pensé de faire un livre, mais réduit, puisqu'on m'avait proposé, bon, c'est difficile, il faut faire un choix. Et puis, ma thèse, essentiellement, elle est articulée avec beaucoup de graphiques, beaucoup de cartes. Vous avez dû un peu la feuilleter, vous allez voir. Et tout est en couleur. Et les imprimeurs m'ont fait quelques propositions, mais de limiter vraiment au minimum les graphiques et toute la démonstration d'une thèse, c'est-à-dire faire un livre un peu, je ne veux pas dire un roman, mais enfin délagué de façon drastique, et surtout de l'éditer en noir et blanc. C'est-à-dire que tous mes graphiques seraient illisibles. Oui, bon, voilà, pratiquement, ce serait illisible, parce que j'ai fait des essais, c'est quasiment illisible. Alors quelqu'un déjà qui n'est pas vraiment féru d'histoire ou qui aime plutôt la petite histoire à côté de la grande histoire ne serait pas attiré. Deuxièmement, ce qui m'a... Bon, je n'ai pas eu cet engouement, c'est que je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Oui, peut-être que je n'ai pas été poussé par quelqu'un à me dire il faudrait laisser une trace autre pour l'histoire elle-même. Bah, j'estime l'avoir laissé, puisque pour les universitaires, pour les chercheurs, j'ai donné des pistes de recherche. Mais ce n'est pas exclu qu'un jour je m'attelle à cette contrainte de limiter à minima en faisant un livre, je sais pas moi, de 500, 600 pages, peut-être.
Et vos projets, parce que lorsqu'on baigne dans l'histoire, lorsqu'on s'intéresse à l'histoire depuis bien autant d'années, même si ça implique une capacité intellectuelle, physique, etc., parce que c'est beaucoup, beaucoup d'énergie, vous avez, Jean-Baptiste Rich, des projets, vous travaillez actuellement sur quoi?
Alors essentiellement, mes travaux portent sur l'aspect monétaire, et je travaille tous les jours, d'ailleurs, vous pouvez voir là-bas, sur le lutrin des documents, je travaille sur cette période, hein, essentiellement, mais aussi j'ai un peu étalé, et notamment même je m'étais intéressé longtemps sur le monnayage grec de Marseille, où j'avais fait quelques travaux qui m'intéressent particulièrement, notamment au niveau des styles, des dragmes et des oboles qui étaient émises par la cité phocéenne, qui ont circulé en Corse à Léria, essentiellement. Mais c'est tout l'aspect qui m'intéresse, économique, de la monnaie, l'impact qu'a pu avoir, si vous voulez, le monnayage, la monnaie, à travers les militaires eux-mêmes, et de savoir ce que ça représentait en valeur intrinsèque et en valeur, en pouvoir libératoire, etc. Je l'ai évoqué aussi dans ma thèse, mais c'est ce que j'approfondis et je veux avoir des certitudes et non pas des approximations à ce niveau, mais c'est un travail de longue haleine, bon, peut-être encore pour 20 ou 30 ans, si Dieu me prête vie.
Alors Jean-Baptiste Rich, en conclusion, on va dire, par rapport à votre thèse, qu'est-ce qu'on pourrait dire donc sur les soldats ou mercenaires corses durant cette période-là, et forcément même à travers l'histoire, hein.
Voilà, alors en conclusion, moi ce que je pourrais dire après tant d'années d'études là-dessus, et qui illustre, d'après moi, assez bien ces hommes qui ont servi pratiquement dans toute l'Europe, essentiellement du Sud. Et j'emprunterai la formule dans une poésie de la dernière strophe d'Alfred de Vigny. Je trouve que ça illustre bien nos soldats, nos mercenaires corses. C'est notamment dans la mort du loup. C'est gémir, pleurer, prier, est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler, puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler.
On a eu des discussions autour de l'histoire, du rôle de l'historien, etc. Des choses passionnantes. On n'a pas pu en parler là, parce qu'on manque de temps. Ça aussi, c'est la vie. Puis... Mais on aura l'occasion, je l'espère, en tout cas, Jean-Baptiste Rich, de se retrouver sur l'antenne d'RCFM. En tout cas, un grand merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Et puis, comme je le dis souvent à nos amis auditeurs, atro hachi un'altra volta, ma un sisami kandue. Merci.